Ok, on est chaud les gonzes.
Hey mec.
Quoi?
C'est le podcast.
Ah ouais? Lequel?
On se pose, on prend une bière.
Apéro. Allez.
Salut tout le monde, c'est Eugénie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Autour d'une bière. Un podcast sans pression où on se retrouve entre potes, une bière sous le coude, pour échanger sur des sujets d'actu qui font débat. Le 23 février 2021, la ministre Frédérique Vidal annonce l'installation de 1500 distributeurs de protection périodique gratuite dans les résidences universitaires du Crous et les services de santé universitaires. À partir de septembre, plus tôt dans l'année, on annonçait que tous les établissements scolaires d'Île-de-France recevraient des protections hygiéniques gratuites à disposition des élèves. Ces mesures ont pour objectif de lutter contre la précarité menstruelle qui toucherait en France plus d'une personne sur trois de l'enseignement supérieur et près de 1,7 million de menstruées, selon un sondage IFOP. Le 24 décembre dernier, l'Écosse a été le premier pays à voter en faveur de la gratuité des protections hygiéniques. Suite à cette annonce, Emmanuel Macron avait affirmé dans une interview pour Brut des réformes cruciales d'ici la fin du premier semestre 2021 au sujet de la précarité menstruelle. Bien qu'on soupçonne la France de devenir le deuxième pays du monde à adopter la gratuité des protections périodiques, la France ne serait-elle pas au final un petit peu en retard ? La gratuité des protections hygiéniques pour les scolarisés est-elle suffisante pour lutter contre la précarité menstruelle? Et comment ça se passe quand les influenceurs se mêlent du débat? Bref, beaucoup d'interrogations, peu de réponses. Et c'est pour cela que j'ai à mes côtés la crème de la crème des invités. Les filles, je vous laisse vous présenter.
Moi c'est Lila, je suis costumière, j'habite à Lyon pour mes études et je viens de Marseille.
Bonjour, moi c'est Lou, je suis en L2 de sciences sociales, sur Lyon aussi.
Moi c'est Ismaël.
Et je suis dans le design graphique.
Donc commençons tranquillement. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme? Est-ce que selon vous, c'est assez?
Alors c'est bien qu'il y ait peut-être cette réforme qui soit mise en place. Mais dire qu'en mettant 1500 distributeurs dans des lieux étudiants, ça lutte contre la précarité menstruelle, c'est vraiment... faire des raccourcis énormes parce que bon oui il y a les étudiants mais il n'y a pas que les étudiants qui sont touchés, il y a des personnes précaires en général et dire aussi que ça lutte contre la précarité étudiante, c'est aussi faire des raccourcis. Donc oui c'est bien qu'il y ait un intérêt des politiques sur le sujet mais je pense pas que ce soit réellement, je pense qu'il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits autour de ça, ouais. Comme quoi ça allait être une solution un peu miracle en fait. Alors que oui c'est bien, mais mettre 1500 distributeurs, c'est pas lutter contre la précarité menstruelle, c'est faire une petite action.
À la base ce mouvement il était pas tellement créé par les féministes, il était plus créé par les personnes justement qui luttaient pour les droits des personnes sans abri en fait. Et c'est vraiment dommage parce que y a une gentrification du coup du mouvement.
Tu veux dire que à la base, du coup, c'était une lutte pour une amélioration des conditions de vie des sans-abri,
oui.
Et que du coup, ça a été approprié par les féminismes et ensuite le gouvernement l'a utilisé.
Je pense qu'il y avait des féministes qui luttaient sincèrement contre ça, mais qu'elles ont quand même tendance à oublier pour qui c'est en premier lieu, parce que la plupart des féministes, enfin, c'est quand même des femmes qui sont relativement bien. Dans leur vie et je pense qu'on a tendance à... Enfin, qui ont une éducation, etc.
Ouais,
ce genre de truc.
On a tendance à revoir les priorités à la
oui, voilà, c'est ça. Guillemets.
Je suis dans des assos et tout. Par exemple, on peut parler des Restos du Cœur. Il y a une espèce de banque de produits et des gens qui viennent s'enregistrer, qui viennent retirer des produits qui leur sont essentiels et ils ont des points qui sont attribués, par exemple, aux produits d'hygiène. Et ces gens-là vont pas, sur leur point de produits d'hygiène, prendre des protections périodiques. Mmh. Ils vont plutôt prendre du gel douche, du papier toilette. Dans ce cas-là, mettre les choses dans les facs, enfin mettre des distributeurs dans les facs, c'est bien.
Que oui,
il y a
oui,
une grande précarité étudiante aussi. Et les étudiants ont besoin de ça. Enfin,
ouais.
Les personnes.
Mais ça fait omission de toutes les personnes sans abri qui n'en ont pas accès, ou même à toutes les autres personnes qui n'ont pas. Qui n'ont pas accès à
oui,
ces...
Les gens précaires,
oui, voilà.
Pas forcément, qui sont un peu délaissés de la société.
Oui.
Parce que les étudiants, ils ont quand même un contact avec la société. Il y a beaucoup de personnes
oui, puis
qui sont à l'écart. Qui sont, ouais, complètement à l'écart, enfin, mis à l'écart de tout un système.
Oui, puis c'est des gens qui ont moins d'aide aussi. Les étudiants, ils ont quand même des... Même si ça suffit pas toujours, ils ont quand même des aides de l'État financièrement.
Est-ce que par là, vous entendez que du coup, si on veut lutter contre la précarité menstruelle, les étudiants sont pas forcément ceux pour qui lutter en premier,
oui.
Mais il y a des personnes qui en ont plus besoin que...
Après, c'est bizarre de classifier les choses.
Il n'y a pas de priorité à définir, je pense. C'est...
Oui.
C'est pas une question de priorité, c'est une question que je comprends pas pourquoi en 2021 c'est toujours pas gratuit, alors qu'il y a plein de choses qui sont gratuites, des services publics, tout plein de choses, qui sont des services non marchands parce que bah, ça touche à l'essentiel.
Et du coup, sur le même sujet, en décembre dernier, Louise Aubery, connue sous le nom de My Better Self sur les réseaux, a lancé une collecte de protection hygiénique ou périodique sur un post Instagram. L'influenceuse aux 460 000 abonnés proposait une collecte qui se basait sur un principe assez simple. Donc c'était un partage de sa photo en story qui était du coup égal à une boîte de protection périodique reversée à l'ADS Asso, une association mobilisée pour la prise en charge des personnes menstruées en situation d'exclusion. C'est la marque Nana qui a accepté de reverser les protections à l'ADS Asso. Et au total, la photo a été partagée 862 000 fois, ce qui a donc permis une récolte de 862 000 paquets de protection périodique. L'action a été le sujet de beaucoup de controverses. Certains félicitaient l'influenceuse, utilisaient sa notoriété à bon escient, et d'autres pointaient du doigt le manque d'inclusivité de ce poste et le féminisme washing dont fait preuve la marque Nana. Donc je vais juste faire deux petits rappels pour qu'on soit bien tous sur les mêmes bases. Donc déjà, le féminisme washing, c'est quoi ? Donc en fait, c'est un petit peu la même chose que le greenwashing, mais mis à la cause féministe. Donc le féminisme washing, c'est la mise en avant par certaines marques de leur combat pour le droit des femmes. Donc ça permet à la marque en fait de se donner une bonne image en utilisant une cause de plus en plus avec des grosses guillemets tendance pour faire du profit. Et donc là-dedans, Nana, en fait, bah c'est un exemple parfait de féminisme washing, c'est-à-dire que en 2015, il y avait une loi. Il y a une loi qui a été adoptée en fait, qui a permis de baisser la TVA sur les produits d'hygiène nécessaires, dont font partie les protections périodiques. Donc il y a donc une baisse de 20% à 5,5% de TVA, donc c'est quand même énorme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Nana, il y a beau avoir eu cette baisse, en fait, Nana n'a pas changé ses prix. Et au contraire, elle s'est fait du profit. Nana opère avec un refus de transparence sur la composition de leurs produits. Donc en fait, ce qu'on reprochait beaucoup à ce poste, c'était un gros coup de pub pour une marque finalement pas incroyable. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de cette action et est-ce que vous avez partagé cette photo en story sur Instagram?
Alors moi, à la base, j'étais vraiment pas chaude de la repartager parce que, en fait, je croyais que c'était ce genre de truc, tu sais, sur Facebook, en mode « Cette petite fille a un cancer, un like égale une prière !» Et j'étais en mode « Vas-y, c'est encore une connasse qui veut se faire une pub, tu sais, en disant que ça va soi-disant verser des tampons, mais n'importe quoi. » Et après, j'ai vu des gens dont je considérais le contenu comme étant sérieux, des médias un peu alternatifs et tout, reparler de cette publication, j'étais en mode « Ah, c'est pas une connerie ! Ah bah oui, vas-y, je repartage, tu vois !» En soi, je critique pas énormément le truc parce que Nana, contrairement à des concurrents comme Tampax ou je ne sais quoi, c'est hyper chimique, ça exploite des gens, enfin voilà, niveau éthique c'est vraiment à revoir, mais du moins c'est quand même les seuls, à ma connaissance, il me semble, vous me corrigez si je me trompe, qui ont mené une telle action.
Là-dessus je suis d'accord avec toi, sauf que Nana, il y a quelques années, une association de l'Académie de l'ESJ qui s'appelle Nouvelle Règle ESJ a demandé à Nana de faire en fait une telle action pareille, donc c'est-à-dire de donner. Cet asso avait proposé à Nana un tel partenariat en leur disant est-ce que vous voulez bien nous filer des boîtes de protection périodique qu'on puisse les distribuer et lutter contre la précarité menstruelle, en tout cas aider à cette lutte. Et Nana avait dit non. Et okay. En fait, du coup, ce qui fait sérieusement reconsidérer la chose, tu dis non à une petite asso qui à côté aurait fait une pub minime à Nana vu que la visibilité est pas incroyable. La Nana a gagné en visibilité et clairement a redoré un peu son blason.
Bah oui, mais en même temps, c'est pour faire l'avocat du diable, hein, mais d'un côté je les comprends, c'est que moi j'apprends à bosser un peu dans la pub. C'est vraiment un milieu de grosse merde, la pub. Mais il y a des gens qui vont quand même essayer d'utiliser l'impact et l'influence que ça a sur la vie de ton tas chacun à bon escient. Et Nana, bah oh oui, à un moment ils ont eu le choix entre faire une bonne action qui leur aurait pas donné énormément de visibilité, ou faire une bonne action quelques années plus tard qui leur aurait donné une visibilité de ouf et qui aurait un peu nettoyé leur image de marque un peu sale. Forcément, on est dans une société capitaliste. Enfin, c'est le propre de société. Faut générer de l'argent parce qu'on en a besoin pour vivre et parce que s'enrichir, c'est cool. Voilà. c'est en cohérence avec la société dans laquelle on vit.
Je pense pas qu'ils font ça vraiment pour l'éthique, mais plutôt pour l'image. Et peut-être que l'image redorée, bon après ça fait controverse, alors c'est un peu foiré, mais l'image qui a été redorée vaut plus que le coût de production de ces serviettes, ce poste. Donc moi je l'ai pas partagé parce que ben j'ai été mal à l'aise avec l'idée. C'est un peu désagréable pour moi de me dire bon Nana, j'adhère pas forcément parce que ils peuvent se permettre ça. Si par exemple elle se serait directement adressée à des marques plus éthiques peut-être, et ben ils auraient pas eu forcément la possibilité de faire un tel don. D'une certaine manière, moi je trouve que l'action est bien. Nana, c'est peut-être pas ouf, mais à un moment,
tu veux dire la fin
qui justifie les moyens. C'est totalement ça. Mis à part le fait que...
Je pense que les gens qui reçoivent ça, ils sont pas
ils
en
sont
mode
contents,
c'est Nana.
Ils sont pas en mode oui. C'est Nana. Eux, ils sont juste contents de pouvoir vivre leur vie. Je pense notamment à Louis, un de... Comment ça s'appelle ?
Louis,
qui parlait justement qu'elle, elle était... dans un monde, enfin dans la rue, et elle avait pas de quoi par exemple s'acheter des protections périodiques, et que c'était vraiment une humiliation totale. Après le fait de dire un partage c'est un paquet, rien que la démarche c'est abominable. Donc ça veut dire que si personne oui. partage, bon bah je donne rien, enfin.
Après ils se sont engagés en fait dans cette campagne de féminisme machine, oh yeah. Et c'est que maintenant qu'ils sont engagés là-dedans, c'est une image qui est un peu accrochée à eux. Enfin, quand je vais aller par exemple au supermarché pour m'acheter des protections périodiques et que je vois à côté une boîte de Nana et une boîte de Tampax, et je suis en mode bon, bah tant qu'à faire, je prends les Nana parce que bah.
Ils ont fait une bonne action.
Ils ont fait une bonne action et ils vont en faire d'autres. Parce que maintenant qu'ils se sont donné...
tu veux dire qu'ils sont engagés dans...
Mais c'est que cette image, elle va leur coller à la peau. Et que si c'est...
Oui,
si
ils doivent continuer s'ils veulent pas être défoncés par les critiques.
Mais
quoi.
C'est ça. C'est que là, c'est un côté un peu à double tranchant de « Ah ouais, c'est génial qu'ils fassent ça !» Sauf que si d'un coup, ils le font plus, on va pas les comparer à Tampax qu'ils n'ont jamais fait. On va les comparer à des lâches, en fait, qui ont tenté un truc et ça leur a fait un buzz. Et puis, une fois que ça leur fait plus de buzz, ils arrêtent. Alors que là, justement...
Je veux dire qu'il pourrait y avoir un revers de la médaille s'ils arrêtaient toute action féministe ou toute action pour lutter contre la précarité menstruelle.
C'est ça.
Et Lila, d'ailleurs, là-dessus, est-ce que t'as des choses à dire ?
Moi, j'avais pas partagé la publication parce que en général, je suis pas à l'aise avec ce genre de choses. Et après, je blâme personne qui l'a partagé parce que je comprends l'envie de faire quelque chose, même si c'est pas grand-chose, un partage. Mais moi je suis pas à l'aise avec ça, je suis pas à l'aise avec le fait que la cause féministe elle soit aussi super esthétisée. C'est une cause dont on parle depuis très longtemps en vrai dans les milieux féministes et dans les milieux qui militent pour les SDF. Enfin elle est juste partagée parce que c'était une jolie photo esthétique. Ça perd de son sens et en fait c'est un sujet qui a tendance à choquer et à répugner la plupart des gens et là c'était digestible et du coup forcément les gens l'ont partagé.
Mais est-ce que justement on peut pas se questionner là-dessus ? Est-ce qu'il faudrait plutôt changer les mentalités et faire en sorte que les gens s'intéressent à autre chose que l'esthétique pour porter une lutte ou des idées pour le bien d'autrui ? Ou est-ce qu'il faut justement de la part des personnes qui veulent faire bouger ces choses se calquer sur ces gens-là et faire en sorte que, comme je sais pas si on pourrait appeler ça de la manipulation, mais faire en sorte qu'ils accrochent en tout cas au message et qu'ils y participent par... cette, comme tu dis,
esthétisation. Ben, en fait, je pense que c'est une stratégie, le fait d'esthétiser les choses, qui marche. Mais en fait, le problème, c'est que elle vient à un prix.
Le féminisme washing. Féminisme.
Waouh, mais tu l'as trop bien dit cette fois.
I know. Le féminisme washing, à vous utiliser le féminisme tant qu'outil marketing, en fait, il permet aussi de donner de la visibilité, donc c'est exactement ce qu'on disait. Et Le Monde, en 2018, questionnait sur ce sujet. Est-ce un engagement véritable ou simple opportunisme marketing? Est-ce aux avantages des féministes de refuser la visibilité qu'ils donnent? Donc en réponse, Marlène Schiappa déclarait « Leur démarche est peut-être opportuniste, mais cela m'est égal. Ce que je regarde, ce sont les actes. Tant mieux si c'est porteur. » Est-ce que vous êtes d'accord avec Marlène?
Bah du coup, Lila, c'est ce dont
oui,
tu parlais.
Bah, moi, c'est ce dont je parlais. Je pense que c'est bien les actes, mais le problème, c'est que si on laisse des grandes entreprises faire ces choses-là, elles vont l'esthétiser, elles vont l'utiliser comme coup de pub. Il y a des gens qui vont être oubliés, et en général, c'est les gens que la société aime le moins. Donc, les personnes racisées, les personnes les plus précaires, les personnes trans, etc.
En fait, sur le court terme, ça fait une action à bon escient, sauf que sur le long terme, ça change pas le problème de fond.
Voilà, c'est ça.
Ça avance petit pas par petit pas, quoi. Mais je trouve que quand même, c'est déjà bien. C'est une petite bataille de gagner.
Je suis d'accord.
C'est, on va peut-être avoir 1500, bon, c'est pas énorme, mais distributeurs de protection hygiénique en France.
Par rapport à ce que disait Lila et l'exclusion des personnes qui sont déjà exclues dans la société, dans les causes comme ça, à cause de, justement, les coups de pub, ouais. L'esthétisation des choses comme ça. Dans les milieux associatifs, quant à des dons ou des financements de l'État ou de n'importe qui pour te donner, imaginons, des protections périodiques, toi, tu vas ensuite les distribuer, par exemple, dans les bidonvilles, dans les squats, auprès des personnes précaires, mais c'est à l'association de distribuer ces choses-là. Et c'est, l'association n'exclut pas les gens parce que généralement, justement, l'association va voir des personnes qui sont en situation de détresse.
L'action que vient de faire l'État avec les distributeurs, bah, par exemple, ça concerne qu'une toute petite partie de la population.
Oui, non, mais les quand distributeurs, on s'est mis d'accord dès le début.
Oui, c'est bien complètement, sûr. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ça revient pas complètement aux associations. Moi, je fais confiance aussi aux associations, mais l'État, il donne pas toute la responsabilité aux associations, et c'est bien ça le problème, d'ailleurs. Bah, et après, aussi, j'ai un dernier truc à dire, c'est que il faut jamais se contenter de ce qu'on a. C'est que si on commence à se conforter, on dit oui mais quand même 1500 distributeurs c'est un début et tout ça, on n'aura jamais plus, on est obligé de forcer pour avoir plus parce que c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas en France.
Pour moi, l'État devrait donner aux associations et les laisser elles-mêmes faire leur job parce que c'est elles qui sont en contact des gens qui sont dans la vraie vie. C'est que par exemple, bon là il y a les élections 2022. Il y a ce coup de pub, ce placement sur par exemple la précarité étudiante, ça va sûrement revenir dans les programmes électoraux. Les gens qui sont exclus, et ben eux, ils votent pas.
Exactement.
Du coup,
c'est pour ça qu'ils ont visé les étudiants.
Oui, c'est pour ça qu'ils ont visé aussi les étudiants.
Pour continuer, donc au Moyen-Âge, parce que oui, je vous parlais du Moyen-Âge parce que je suis en licence d'histoire et que jusqu'ici, ça ne m'a rien apporté dans ma vie. Donc, on va le mettre ici, hein. Donc, le sang des règles, le Moyen-Âge, c'était considéré comme du poison que les femmes, créatures maléfiques, expulsaient de leur corps. Et aujourd'hui, même si plus personne ne croit que ce sang de règles, bah, c'est égal au poison, ce sang est en fait pour autant souvent rapporté à quelque chose de sale, d'impur, dont nous, menstruées, devrions avoir honte. Et face à ça, en fait, c'est pour donner de la visibilité à la précarité menstruelle, le hashtag « ça va saigner » a fait son apparition en 2019 et de nombreux artistes ont utilisé ce hashtag pour légender leurs œuvres sur les menstruations. Donc moi là, ma première pensée, c'est par exemple Irénée, une militante féministe qui en fait s'était fait prendre en photo dans le métro parisien ou même en fait dans tout Paris où elle avait donc ses règles et un jean et elle n'avait pas mis de protection périodique et c'était donc pour montrer ses taches de sang en fait. Et donc par exemple, alors hors du hashtag ça va saigner, on avait Johanna Vasconcelos qui en 2012 avait donc créé un lustre immense composé de tampons et donc l'idée en fait de cette femme c'était de pervertir le luxe en créant une œuvre d'art donc composée de tampons qui sont souvent rapportés à l'hygiène féminine, quelque chose de tabou, de sale dont on ne doit pas parler. Donc qu'est-ce que vous pensez en fait de la représentation des menstruations dans les œuvres et sur les réseaux et est-ce que vous y trouvez du sens?
En vrai, c'est cool. Parce que ce sont des choses qui existent, voilà. Et que bah il y a la moitié de la population qui est, confrontée tous les mois.
Il y a une
prise de conscience,
prise de conscience. Et les marques se disent, ah oui, c'est vrai, bon, on mettait du faux sang bleu, bon, allez, maintenant, ça fait bien de mettre du sang rouge, ça fait comme si c'était chouette, et comme si on était hyper, hyper inclusif, hyper féministe, hyper engagé. Et du coup, ça nous donne une super image.
Ils essaient, et du coup, ils essaient de faire pareil avec les poils aussi, en ce moment,
oui.
Je sais pas si
oui, 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 non, mais avec tout ce qui est du corps féminin.
Oui, mais parce que du coup, c'était...
En fait, corps féminin, il est encore une fois vendu, mais cette fois sous un aspect féministe.
Ouais. Oui, voilà, c'est totalement ça.
Le corps des femmes en tant que construction sociale est vendu, en tout cas.
Ouais, mais d'une meilleure manière, d'une manière peut-être plus libre aussi.
Non.
Oui, après, moi, je trouve que c'est bien quand même qu'à travers la publicité... Alors, ok, on a encore des objets, hein, voilà. Avant, on était vendus comme des objets de satisfaction parfaitement épilés, qui sent bon, qui a pas de poils, qui n'a pas de règles, qui sent bon de la foufoune, voilà. Maintenant, on est vendus comme des objets, peut-être avec un libre arbitre un peu plus accentué.
J'avais entendu quelqu'un qui avait fait... qui parlait du fait que bientôt on va changer probablement d'idéal de la femme, parce que ça change à peu près tous les 10 ans, et qui donnait une théorie, c'est que si ça se trouve, dans la prochaine décennie, ce qui va être super à la mode, c'est d'avoir des poils, et en vrai, ça serait une super technique marketing, parce que ça a coûté tellement cher aux femmes de se les enlever, mais alors, s'en remettre, comment on va faire ?
Oh là là. Avec cette sensibilisation, justement, il y a eu beaucoup de gens qui sont qui ont eu des discours moralisateurs alors qu'ils sont même pas concernés.
Ouais.
Fait de dire tu devrais utiliser des produits bio et des produits réutilisables.
Faut pas oublier que en fait l'alternative écologique, développement durable, eco-friendly, elle est accessible aux personnes quand même d'un niveau de vie stable, qui ne sont pas dans des situations précaires.
Et même l'intérêt pour ces questions-là.
Parce oui, que et qui ont un intérêt pour ces questions-là. Quand tu es dans la rue, ton intérêt principal c'est pas l'écologie, c'est de survivre.
J'ai un dernier truc à dire là-dessus, c'est que moi personnellement je me sens pas du tout liée à toute cette mouvance de montrer son vagin sur Instagram, enfin je m'en fous en fait. Genre tant mieux s'il y a moins de stigma autour, mais ce que j'ai juste peur c'est que aussi que ça devienne trop des symboles de la femme. Parce qu'à chaque fois c'est fait que par des femmes cis, généralement hétéros, et c'est vraiment un truc en mode... c'est lié aussi au mouvement sex-positif, c'était un mouvement qui prenait... la liberté de son corps et du sexe, et qui était plutôt une approche positive, mais qui ensuite a été complètement déraillée, qui a commencé à avoir plein de discussions sur les fantasmes sexuels, etc., et qui a commencé à prôner le fait d'avoir beaucoup de rapports sexuels, etc., et c'est juste pas ce qu'on a envie. Genre, on peut, évidemment, c'est pas quelque chose où il faut y avoir un stigma, mais c'est un mouvement où il a commencé à y avoir...
Un stigma inverse
envers les personnes qui n'ont pas de rapport sexuel, n'ont pas spécialement de fantasmes délirants.
Et du coup, dans ce contexte-là...
Et en fait, j'ai peur que, pareil, ça soit complètement déraillé vers un truc...
Tu veux dire qu'on va commencer à stigmatiser les gens qui ne montent pas leurs règles et qui se sentent pas forcément à l'aise avec ça?
Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est aussi notre corps. On le dit tout le temps, mais c'est vrai, c'est notre corps. Genre, si on n'a pas envie de revendiquer le fait d'avoir un vagin,
tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, c'est tes choix.
Après, moi, je trouve que cette image de cette un peu femme fatale qui a plein de désirs et qui baisse partout, j'ai pas peur qu'elle vienne stigmatiser encore une fois la femme. Je me dis que justement peut-être qu'elle peut venir légèrement rééquilibrer cette image de la femme au foyer soumise au désir sexuel de son mari, qui voilà, je pense que ces deux images sont compatibles et qu'il y en a pas forcément une qui va prendre le revers sur l'autre, et que les deux sont compatibles et peuvent justement permettre de créer un peu de nuance. Après, je suis peut-être trop idéaliste, j'en sais rien.
Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que ces deux... En fait, je suis pas contre ces représentations en soi. Mais ce qui me dérange, c'est que c'est des représentations dans l'inconscient collectif, et que ces deux représentations qui sont opposées dans nos esprits, ils sont centrés autour des hommes. On n'est pas que soit des êtres sexuels, soit des êtres qui restent chez nous. On est des extra complexes.
Oui.
Ouais.
Comme vous, monsieur.
Mais maintenant, j'aimerais passer à la rubrique des tweetos.
Tweetos, tweetos, tweetos.
Ladies and gentlemen, it's tweetos time.
Premier tweet. Donc l'État va passer de gigantesques contrats avec des multinationales qui ne paient pas leurs impôts pour leur acheter des protections périodiques jetables hyper polluantes. Qu'est-ce que vous pensez de ce tweet? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Ben, il a pas tort.
Ben, en soi, déjà, si les choses pouvaient être bien faites, l'État passerait pas des commandes à des multinationales, mais passerait des commandes à des petites entreprises, des choses éthiques. Mais même si il ne le fait pas, de toute façon, les particuliers, eux, achètent des choses pas forcément éthiques, ils achètent des choses pratiques.
Mais ça m'a fait penser aux toilettes, aux papier toilette disponibles dans les toilettes des lycées. En fait, genre, tu sais ce gros rouleau de petit papier tout fin,
ouais,
qui s'effrite, voilà. Bon, bah c'est pas ouf, mais en vrai ce serait chiant si c'était pas là, tu vois.
On est après, après je sais pas comment ça va fonctionner, mais peut-être que ce sera des espèces de... Imaginons tu payes ton article, et sur ton article t'es remboursé tel le pourcent de ton article quand il passe en caisse.
Oui, tu veux dire, est-ce que l'État va imposer un type de protection périodique, ou est-ce qu'on va laisser le choix au consommateur du type de protection périodique qu'il
oui,
veut.
Voilà.
C'est ce qu'on va
probable,
dire.
Hein, ouais.
C'est plus probable.
Mais du coup, pour revenir sur tout ce qui est gratuité, on a un autre tweet qui nous dit « Pourquoi continuer de dire gratuit quand il y a toujours quelqu'un qui paie ? Gratuit pour l'utilisateur, dont le pays, dont les dépenses sociales sont les plus élevées. Avec comme conséquence qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, la police, la justice, l'école, l'université, la
rejet. » Arrête-toi, laisse-moi.
Oh, hey.
C'est parce que c'est ridicule. Bah, c'est complètement ridicule. C'est pas en allouant une certaine somme pour la gratuité des protections périodiques qu'il y aura plus d'argent pour les facs. Bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, c'est tout mélangeant, encore une fois, c'est faire des grands raccourcis.
Je pense qu'on peut conclure cet épisode sur cette parole sage des semaines. Et c'est ainsi que nous pouvons clore le débat. Au revoir à tous et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'Autour d'une bière.
Amour et ton Pax.